Une petite quarantaine de pages tirées pour l'essentiel de l'ouvrage qui a été tiré de ma thèse. Et donc, il va faire sur l'emprisonnement pour dette à l'AMH, comme tu l'as dit. Bon, je dis pour l'essentiel parce que j'ai un certain nombre de choses que j'ai données, des choses que j'ai rajoutées, mais bref, c'est quand même la prose qui est parmi en 2007. Alors, donc, ça a porté sur l'emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen-Âge. Je vais faire quelques précisions là maintenant parce qu'en relisant le texte, c'est pas mieux, mais peut-être des choses quand même qui ne sont pas très claires. Donc, d'une part, je connais mieux l'endettement que le crédit, hein, c'est-à-dire que je connais, j'ai travaillé sur l'emprisonnement pour dette, hein, donc je connais mieux l'impayement, hein, comme on pourrait dire, et toutes les formes de dette, y compris celles qui ne reviennent pas du crédit, hein, comme par exemple cette dette particulière, qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, et qui est la dette de temps de travail, le temps de travail du salarié de l'apprenti. Alors, le choix de l'objet, de l'angle d'attaque est en partie dicté par la structure de la documentation parisienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'archives notariales à Paris avant 1460 au mieux, et les actes notariés n'ont pas de fonds qui nous viennent des notaires eux-mêmes, donc on n'a pas les actes de crédit eux-mêmes avant les années 1460 encore au mieux, et les actes notariés conservés avant 1460, le sont dans les fonds des établissements religieux de la capitale, très abondant, mais ces actes notariés conservés avant 1460 se coûtent rarement relatifs au crédit. Donc pratiquement pas de prêts, hein, c'est vraiment l'exception quand on rencontre un acte de prêt de la fin du XIIIe siècle, du XIVe et de la promesse du XVe siècle, pratiquement pas de vente de biens mobiliers à terme. Par ailleurs, à Paris, des sources fiscales ne renseignent pas le post-endettement, hein, alors que par exemple en Italie à une époque on a des sources fiscales qui nous permettent de faire prévoir la dette de crédit. Et les inventaires accrédités, pour la même raison que les archives notariales en général, ils ne sont pas inexistants, mais ils sont peu nombreux et relativement tardifs. Alors on a bien quelques listes de créances qui subsistent, mais ces listes de créances sont d'abord très isolées, de loin en loin. On a les créances de deux compagnies italiennes, par exemple à la fin du XIIIe siècle, mais dans l'ensemble, ça ne permet pas de percevoir véritablement l'activité de crédit la plus quotidienne. D'où le recours donc à la documentation judiciaire, principalement la documentation issue du châtelet, c'est-à-dire la juridiction du prévôt royal de Paris, le juge royal de la capitale des États-Unis, la principale juridiction ordinaire, hein, pour le Paris médiéval, juridiction qui a une compétence de fait privilégiée, bien sûr, les conventions privées parisiennes, actes des crédits ou autres. Donc, on a pour Paris une connaissance très oblique du crédit, hein, puisque c'est la documentation judiciaire qui prime, et donc on connaît plus la dette que le crédit, et plus l'histoire institutionnelle et politique de la dette que l'histoire économique et sociale du crédit. Bon. Alors, cela étant posé, j'ai rassemblé là, dans les pages que vous ai envoyées les éléments qui me semblaient le plus susceptibles d'intéresser les historiens du crédit privé, et des éléments qu'on n'interpellait peut-être pas tellement avant d'avoir étudié les sources judiciaires, comme j'ai essayé de commencer à le faire. Parce que ces éléments, à mon avis, restituent hein, à l'économie quotidienne de Paris un caractère ordinaire dans un environnement européen médiéval qu'on ne voyait pas spécialement bien avant. Donc, on a écrit que la place parisienne, la place d'affaires, et déclinante et mourante au XVe siècle, comparé aux grandes places européennes, places italiennes, places flamandes, et on a dit que ce déclin pouvait être attribué au rôle nocif joué à Paris par la fonction administrative, par l'office, qui capte talent et argent, au détriment de l'activité de marchandises et de l'activité de finance. On a dit aussi que la coutume parisienne, c'est-à-dire le droit local, et reflète ce retard que la coutume parisienne est marquée par l'archaïsme hein, des instruments de crédit, par l'archaïsme du droit des obligations, du droit des conventions, donc en particulier du droit des actes de crédit. Bon, l'étude de l'emprisonnement pour dette montre que des mécanismes juridiques, judiciaires, ont été mis en place pour garantir le crédit privé, mécanismes qui ne s'aperçoivent que du bon sens en cas de la documentation judiciaire ou administrative. Alors, donc pour la séance du jour, j'ai essayé de vous conserver ce qui concerne pour vous une sociologie de l'emprisonnement pour dette, une sociologie du, de ce crédit spécifique qui aboutit dans les geôles parisiennes, hein, dans les prisons parisiennes. Et bon, il faut retenir en compte que l'emprisonnement pour dette ne contient que quelques catégories de la population, dont la population parisienne et la banlieue parisienne, dont il est admis qu'elle recourt de façon normale au crédit, comme toutes les populations rurales et urbaines depuis le 13e siècle, à Paris, dans la pauvreté de Paris, comme ailleurs en Europe. Donc, l'emprisonnement pour dette ne concerne que quelques catégories de la population, donc c'est simplement ce que j'ai essayé d'écrire là, par ces pages, et la question est de savoir dans quelle mesure donc, le crédit a à voir avec des hiérarchies sociales, dans quelle mesure, à partir de là, il produit de la hiérarchie, dans quelle mesure on peut dire oui. Alors, les pages que j'ai envoyées présentent dans le point, dans le petit 1, donc du bien, donc des éléments relatifs à la sociologie de ceux qui recouraient au crédit, donc des débiteurs, qui recouraient au crédit en s'engageant à être emprisonnés en cas de défaillance de paiement. Donc ces gens qu'on appelle les obligés cordésiens. Pourquoi, alors c'est une précision-là qui me permet peut-être de comprendre un peu mieux ce que j'ai envoyé. L'obligation corps des biens ou obligation de tenir prison est une espèce du genre obligation. Et l'obligation elle-même, c'est une clause qui apparaît au XIIIe siècle dans les actes juridiques, pas seulement parisiens, hein, dans les actes juridiques, dans les conventions privées, et elle apparaît comme garantie de sûreté. Hein, c'est une manière d'engager des biens, donc obligation de biens, ou des personnes en caution, en garantie d'une convention. Simple précision, ce faisant, l'obligation médiévale est moins une manière de contracter que d'exécuter et de contraindre. C'est-à-dire que l'obligation médiévale, contrairement aux des gens qui sont spécialistes de droit antique, de droit romain, donc qui le connaissent un peu, en droit médiéval, l'obligation est clairement du côté de la coercition, ce n'est pas un instrument, une façon normale de contracter. La preuve est qu'il existe des conventions, notamment des conventions de crédit, mais pas seulement, sans obligation, et qui sont reconnues en justice, mais nécessitent pour leur exécution des procédures plus longues, pour simplifier. Donc, à la même époque, il y a à Paris comme ailleurs du crédit sans acte écrit, qu'il s'agisse de prêts sur gage, qu'il s'agisse simplement de prêts verbal. Il y a du crédit aussi écrit, mais dépourvu d'obligation, les simples cédules, par exemple. Il y a enfin du crédit écrit sans obligation de tenir prison. Donc, ce que je vous présente là, c'est une partie hein, de ce qui est disponible pour ceux qui veulent emprunter, pour ceux qui veulent prêter. Donc, l'obligation corps des biens, c'est une clause par laquelle un débiteur accepte par avance d'être emprisonné en cas de défaillance. Et donc, le point 1, essayer de faire une sociologie des utilisateurs de cette clause, donc, si j'en vois bien un certain nombre de chiffres, de tableaux, qui sont principalement tirés de la seule source qui s'y prête pour l'époque, pour Paris à cette époque, à savoir le registre des coûts du château de la fin du XIXe siècle, parce qu'il a le malheur d'être tout seul, mais qui fournit une liste de 546 écrous pour dette en 7 mois et demi, 317 écrous consécutifs à des actes notariés, certainement, et qui précise les activités des débiteurs emprisonnés, les montants, la date de la créance, de façon plus ou moins systématique le motif de la créance, enfin, qui est quand même extrêmement précis, comme une source que certaines sources notariales elles-mêmes. Alors, de cela, on tire une sociologie pour la fin du XIXe siècle, massivement, ceux qui sont emprisonnés pour dette, ce sont des artisans, des boutiquiers, des salariés, artisans, boutiquiers, salariés, ce qu'on appelle gens métiers, qui représentent pas loin de la moitié des prisonniers pour dette de 1488-1489. Ce sont ensuite des laboureurs, un tiers de ces prisonniers pour dette de 1487-1489, et parmi ceux-ci apparaissent quelques personnes qui sont dites de mourant partout, donc qui sont sans domicile, là qui tirent vraiment la sociologie vers le petit peuple parisien, enfin il y en a aussi quelques autres, par contre quelques marchands. Parmi les gens de métier et les marchands, si on essaye d'aller un petit peu plus loin à travers ce que le greffier de la geôle, le clerc de la geôle nous donne comme indication, on arrive un peu péniblement à la conclusion que c'est principalement les gens de métier de la sphère de l'exécution et de la petite entreprise de commerce et d'industrie qui sont concernés. Bon. Alors, j'ai mis aussi quelques éléments qui permettent de comprendre en partie, enfin qui déterminent en partie cette écologie, à savoir que l'éclair bénéficie du privilégium de l'anonyme, en principe qui peuvent être détenus par l'official, par les juges d'église, et les femmes ne doivent pas, en principe, être contraintes par corps, à l'exception prévue par la coutume parisienne, hein, de celles qui exercent une activité séparée de celle de leur mari et très spécifiquement des vendeuses de poissons de mer. Pratiquement, l'exception est prévue que pour elles. Donc pour l'approvisionnement en poids, dans cette denrée importante, hein, qui est le poisson de mer pour la capitale. Alors, vous me direz, voilà, le registre des couchettes de la fin du XVe siècle, l'intérêt quand même est qu'il est corroboré, même s'il n'y a qu'avec celui-là qu'on peut faire une sociologie un petit peu systématique, hein, l'intérêt est qu'il est corroboré par un fragment de 1412, qui nous montre qu'il ne s'agit pas là d'un impact complet, et que ce que l'on peut, l'étude des codes civils, donc des registres de sentences civiles du Châtelet, et ce que l'on peut tirer de la jurisprudence du Parlement ne remet pas fondamentalement en cause ce signifie. Ça ne permet pas d'approfondir cette sociologie. Parce que alors, le registre des groupes qui nous permet véritablement. Alors, dans le deuxième point, j'ai tenté de caractériser les relations de crédit qui entraînaient un emprisonnement pour dette. Pour l'essentiel, donc, ces conventions concernées sont du crédit immobilier à court terme, hein, du crédit immobilier à court terme, c'est-à-dire du crédit qui doit être en fait remboursé, donc un remboursement de moins d'un an. Donc ce qui arrive dans les geôles du Châtelet, ce sont des dettes pour des ventes à terme, d'abord des ventes à terme de biens mobiliers, drap, blé, lard, vin, métal, etc. Ensuite aussi pour des prêts, donc des prêts d'argent, hein, c'est la deuxième catégorie, c'est pas la première, c'est d'abord des achats à terme, en fait, hein, non remboursés. Et les montants dus à la date de l'emprisonnement, hein, les montants initiaux ne sont pas indiqués par la documentation judiciaire, qui intéresse l'administration judiciaire à la date, c'est la dette elle-même au moment où le cas est saisi par la justice. Les montants sont de l'ordre de quelques semaines de revenus d'un salarié parisien. Plus de la moitié des montants en jeu représentent une cinquantaine de jours de la rémunération d'un manœuvre. Il s'agit massivement de crédits à la consommation, également de crédits commerciaux, hein, puisqu'on a des achats non payés de bétail par des bouchers, par exemple, des achats de vin par des taverniers, un type de crédit commercial. Enfin, on a quelques traces de crédit à l'investissement, puisqu'on a un assez grand nombre, en fait, d'achats de chevaux par des laboureurs. Les créanciers identifiés sont quasiment tous parisiens, plus de 95%. Les débiteurs sont majoritairement parisiens résidant en ville et pour une proportion non négligeable, hein, viennent au-dessus de la banlieue, en gros, grosso modo, un rayon de 8 km autour de la ville. Ce qui veut dire quand même qu'une grosse partie de la ville comtée de Paris, hein, de l'Île-de-France, qui relève de la juridiction du prévôt royal, n'est pas concernée. Il faut imaginer que sur place, on a en fait des juridictions royales qui prennent leur lieu. On a d'autres juridictions royales qui joue, enfin, si vous avez vu la carte que j'ai envoyée, il ne s'agit pas d'un no man's land pour le crédit et l'emprisonnement pour dette, simplement il y a d'autres juridictions, d'autres notaires qui instrumentent et d'autres prisons qui jouent de ce côté-là. Alors, la plupart des prisonniers pour dette n'ont pas de co-débiteur, donc l'obligation de tenir prison semble d'abord solitaire. Donc ça me semble aussi un point important, en même temps que difficile à interpréter. C'est-à-dire que le caractère essentiellement solitaire de l'obligation de tenir prison, pour l'instant, il faut considérer que engager son corps, c'est un substitut à une garantie sur les biens qu'on ne peut pas fournir, qu'on n'a pas, ou à un cautionnement par un tiers, de même qui ne serait pas fiable. Alors, en pratique, l'obligation de tenir prison apparaît plutôt comme une manière détournée d'engager ses proches qui, une fois si on est en prison, ne pourront pas faire autrement que de venir en aide, hein, à chacun de concernés.